Artefact.
Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une chronique un peu particulière, car c'est la dernière de l'année scolaire pour moi. Et oui, c'est tôt, mais comme je vais partir en Erasmus au semestre prochain, je vais pas sur Artefact jusqu'en juin, à mon grand regret, sincèrement.
Oh mon Dieu, j'avais oublié.
Oui, je sais, je m'en doute. J'ai fait exprès de pas le rappeler. Mais surtout, ce qui était le plus dur pour cette dernière chronique, ce fut de trouver une œuvre pour conclure cette saison. J'étais littéralement tiraillée entre plusieurs sujets. Il y avait tous les peintres dont je ne vous ai pas encore parlé, comme Matisse, Pissarro, ou des œuvres pas super connues du grand public, mais passionnantes par leur histoire, comme celle de Jacques-Louis David. Jacques-Louis David, c'est le peintre du Sacre de Napoléon. Et personnellement, j'adorais ses œuvres La mort de Marat ou encore La mort de Socrate. Il y avait aussi des toiles riches en détails, peut-être trop riches en détails pour la radio, comme celle de Renoir. Pour certaines peintures, je n'arrivais pas à les rendre visuelles par mes descriptions, comme le romantisme flou de Turner. Et enfin, ceux dont je n'aurais jamais réussi à prononcer leur nom, comme Ernst Louis Kirchner, ou même Kandinsky, c'est assez facile, ma répétition, j'arriverai pas. Si je fais cette mini-introduction, c'est vraiment pour me libérer de cette frustration en vous soufflant des petites idées de recherche. Et si vous voulez vous informer sur l'histoire des œuvres d'art connues et les décortiquer dans les détails, comme on le fait dans Artefact, je ne peux que vous conseiller l'un des livres qui me sert de source pour les chroniques. Chef-d'œuvre de la peinture par Karen Ozak Janes et publié par Flammarion. Bon, je vous avoue, j'ai pas fait comme Elsa, je sais pas si elle a la BU de Bordeaux. Mais il est quand même super bien. En tout cas, mon choix final s'est porté sur l'œuvre Les Ménines, réalisée par Diego Velázquez en 1656. Les Ménines, c'est une immense toile de plus de 3 mètres de hauteur. Elle représente une pièce du palais royal espagnol. En 1656, la date de création du tableau, l'Espagne était sous le règne de Philippe IV. On retrouve plusieurs personnages de la cour royale, notamment la jeune infante Marguerite Thérèse, alors âgée de 5 ans. Elle est au centre du tableau, notre regard est automatiquement porté sur elle et sur les demoiselles d'honneur qui l'entourent. On peut voir un homme dans l'ouverture de la porte au fond de la peinture. Ils sont au total 9 représentés sur la toile. On retrouve une naine, un chaperon, un chien et surtout Velázquez qui s'est ajouté lui-même en train de peindre une immense toile dont on ne voit que l'arrière, le châssis. Pinceau en main, semblant réfléchir à sa prochaine touche, Velázquez regarde dans la direction du spectateur. Enfin, on aperçoit un miroir à l'arrière-plan qui réfléchit les images du roi et de la reine qui seraient probablement en train d'être peints par Velázquez. Par le jeu de miroir, le couple royal est placé hors de la peinture, à l'endroit exact des spectateurs qui regardent l'œuvre. Cette technique s'appelle la mise en abîme. C'est un procédé qui consiste à placer à l'intérieur de l'œuvre principale une représentation de la même scène d'un autre point de vue. On l'avait déjà croisé dans l'œuvre Les Époux Arnolfini. Avant d'apercevoir ce miroir, à première vue, le sujet principal du tableau est la petite fille. L'air supérieur, car consciente de son rang élevé, elle regarde le spectateur. Elle est richement habillée pour une enfant de 5 ans et entourée de 3 ménines. Ménine signifie demoiselle d'honneur, cela désignait à l'époque les jeunes domestiques royales. Et comme vous l'aurez deviné, c'est ces jeunes femmes qui auront donné le titre au tableau. Cependant, cette appellation ne fut pas le choix de Velázquez, qui l'avait originellement nommée la famille. Ce titre est apparu bien des années après la création de l'œuvre au 19e siècle. Alors, qu'est-ce que le véritable sujet de l'œuvre, les domestiques ou la royauté ? Figurez-vous que la réponse n'est pas si évidente et que, encore aujourd'hui, elle reste floue. Mais on va voir tout ça en détail. Avant tout, il faut savoir qu'une biographie de Velázquez a été réalisée en 1727-24 par un historien de l'époque, Palomino. C'est une mine d'informations sur les Ménines. C'est grâce à ce document qu'on a pu très vite identifier les personnages représentés sur la toile. Ce tableau met en honneur une des infantes espagnoles. Le terme « infante » est donné aux enfants des rois d'Espagne qui n'étaient pas les aînés, et donc qui n'était pas destinée au trône. L'infante représentée dans le tableau est Marguerite. C'était la préférée de Philippe IV, parmi ses 7 enfants qu'il eut de ses 2 épouses, et sans compter la trentaine d'autres enfants illégitimes. Philippe IV appelait sa fille Ma Joie. Marguerite figure également dans plusieurs autres portraits de Velázquez qui lui sont consacrés. À l'époque, il n'y avait évidemment pas de site de rencontre. On envoyait alors des portraits aux différents prétendants pour se présenter. Pour la petite histoire, elle finira par épouser son oncle, Léopold Ier, empereur du Saint-Empire, et mourut à l'âge de 21 ans, après avoir mis au monde 4 enfants. C'est une triste destinée. Ouais. Ce qui peut vous intriguer dans cette toile si riche en détails raffinés, c'est le portrait difforme de Marie Barbola, la jeune fille naine aux côtés de l'infante. Paradoxalement, l'historien Palomino dit dans son livre que Marie Barbola était, je cite, « une naine à l'aspect formidable ». Pourquoi alors cette représentation disgracieuse ? Sa figure sert à détonner aux côtés de la délicate infante. Il fallait en effet mettre en avant la beauté du visage de la princesse, mise en concurrence ici par ces magnifiques demoiselles d'honneur. À cette époque, les personnes atteintes de nanisme étaient utilisées dans les cours royales au même titre que les bouffons. Leur handicap faisait rire cette cour immorale. Et je ne sais pas si vous avez remarqué l'homme qui se détache dans l'encadrement de la porte. C'est José Nieto, le chambellan de la reine. Cela signifie qu'il s'occupait du service des appartements de sa majesté. Il était également le directeur de la manufacture royale de tapisserie. Sur la peinture, il est en train de poser pour Velázquez. Sa posture n'est donc pas naturelle, on ne peut pas savoir s'il va entrer ou sortir de la pièce. Il a probablement été peint pour représenter la cour mondaine espagnole. On peut d'ailleurs voir qu'il porte les clés des appartements royaux, signe de son rang. Ensuite, en s'intéressant davantage sur le fond de la toile, on remarque plusieurs immenses tableaux qui tapissent le mur de ce salon royal. Les tableaux sont faiblement éclairés, mais ils ont tout de même été identifiés grâce à un inventaire des objets du palais, réalisé à la même époque. Leurs sujets sont inspirés des récits mythologiques qui ne sont pas anodins. Ces récits racontent l'histoire de mortels qui s'opposent aux dieux dans des joutes artistiques et voient leur arrogance punie. Velázquez fait peut-être œuvre d'humilité en représentant ses toiles, comme pour minimiser ses prétentions en tant qu'artiste. Ce qui est assez contradictoire car d'un point de vue social, Velázquez s'est peint en gentilhomme, la mine élégante et l'air grave. La croix rouge, qui est très visible sur ses vêtements, représente la hauteur de son statut social. En effet, cette croix est le symbole de l'ordre de Santiago, un statut honorifique. Le peintre l'a reçue quelques années après la création des Ménines et il a donc rajouté cet insigne ultérieurement. Velázquez était en effet reconnu et apprécié du roi pour son caractère et sa conduite d'honneur. Il n'avait d'ailleurs pas uniquement le simple statut de portraitiste de la cour. Le roi l'avait aussi chargé de créer des collections d'œuvres d'art. Velázquez voyage alors beaucoup, rencontre d'autres peintres comme Rubens et s'inspire des autres cultures pour son art. Il émane de cette toile un incroyable effet de réel. Les personnages semblent saisis sur le vif. Les Ménines suscitent cependant bien des interrogations. Nombreux spécialistes ont tenté de déterminer le sujet exact de la composition. Une hypothèse répandue serait que la scène représente la petite infante et ses domestiques interrompant une séance de pose des souverains pour un portrait que Velázquez est en train d'exécuter. Une autre, tout aussi vraisemblable, soutient que c'est au contraire au portrait de l'infante qu'il travaille. L'attitude de l'enfant semble en effet indiquer qu'elle est lasse de poser et que ce sont le roi et la reine qui lui rendent visite dans l'atelier. On sait en effet que Philippe IV est un grand amateur d'art et qu'il aime regarder travailler Velázquez. Cependant, d'autres indices laissent à penser qu'il s'agit d'une critique de la royauté. En effet, représenter le couple royal au deuxième plan, et en plus dans un espace réduit, ne correspond pas aux règles de l'époque. D'autre part, le point de fuite, en peinture classique, symbolise l'infini et donc d'une certaine manière Dieu. Pour rappel, le roi est un monarque de droit divin, il est donc désigné directement par Dieu. Dans cette peinture, la représentation du roi et du point de fuite devrait alors être superposée, car le corps physique de Dieu, c'est le roi. Or, le point de fuite tombe sur Nieto, l'homme dans l'entrebâillement de la porte. Que signifie ce non-respect des conditions ? Et cette affaire de miroir avec le reflet du portrait royal, c'est l'élément le plus important de l'œuvre, et c'est probablement ce qui lui doit sa célébrité, à l'époque et encore aujourd'hui. Beaucoup de spécialistes se sont penchés sur la technique utilisée par le peintre. Le philosophe Michel Foucault a notamment exposé sa théorie dans l'introduction de son livre « Les mots et les choses », écrit en 1966. Pour lui, Velázquez a implicitement réduit la puissance des rois, et donc de l'État, qui sont soumis à la supériorité de la création artistique. Pour dire les choses différemment, le peintre serait en train de remettre en question le régime politique royal en plaçant en tant que sujet du tableau les serviteurs du roi. Les Ménines seraient aussi, selon lui, l'image d'une certaine autonomisation de la peinture par rapport au sujet. En effet, en ne nous montrant pas ce qu'il peint sur la toile, énigmatique, Velázquez s'affranchit du principe de la représentation, car les sujets sont indéfinis. Et au contraire, il va se concentrer sur le message à faire passer par la peinture. Si tout ce que je suis en train de dire, ça vous semble un peu compliqué, c'est normal, c'est un philosophe qui a écrit tout ça. Mais surtout, c'est Michel Foucault, il va expliquer comment Velázquez a réalisé sa toile et c'est encore compliqué. Du coup, n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair. Velázquez aurait utilisé un miroir qu'on ne peut pas voir sur la toile. Posé en face de lui, il pouvait ainsi observer la scène de l'infante et des Ménines de face. On comprend alors la présence de sa propre image et le revers de la toile qu'il pouvait également percevoir dans le miroir situé en face de lui. La présence du roi et de la reine dans le miroir décoratif situé sur le mur est elle aussi expliquée. Le couple serait en effet simplement spectateur de la scène et le peintre a représenté cette image qu'il voyait dans le reflet de son miroir à lui, installé exceptionnellement ici. Et là, forcément, on comprend beaucoup mieux, j'espère, je sais pas.
Pour moi, c'est très clair.
Okay. Voilà, c'est clair. C'était très difficile à expliquer, à l'écrit. Bon, tant mieux. Et du coup, le spectateur se trouve alors à la place du modèle du tableau, et donc du roi et de la reine. À l'époque, les images sont rares. C'était donc impressionnant pour un individu de se retrouver face à une œuvre de 3 mètres. Il se retrouve à la place du couple sacré, observé par l'infante et le peintre. Ce qui lui procure alors immédiatement l'agréable sentiment d'être le roi d'Espagne. Petite anecdote, Velázquez a produit des portraits de Philippe IV et quelques-uns de Marie-Anne d'Autriche. Mais pour autant que l'on sache, Velázquez ne les a jamais peints ensemble, car nous n'avons jamais retrouvé de peinture du couple. L'image énigmatique du miroir serait donc la seule représentation du couple. Du coup, pardon, je m'étouffe, j'ai soif. Mais bon, d'ailleurs, si on réfléchit bien, cela confirme que l'artiste n'est pas en train de peindre le couple sur la mystérieuse toile, car sinon, on aurait retrouvé ce portrait. Du moins, c'est la théorie des spécialistes qui cherchent à confirmer les propos de Michel Foucault, dont je vous ai parlé précédemment. Le jeune Velázquez a un style vigoureux, sombre et marqué par les détails. Il est attaché à la vérité de la représentation et au naturalisme. Cependant, contrairement aux tendances de l'époque, son style néglige les détails au profit de l'impression d'ensemble. Certains éléments, comme les détails de la robe de l'infante, ne ressemblent à rien vu de trop près. L'effet visuel se concrétise en prenant du recul. C'est assez banal pour notre époque, mais c'était une pratique originale en son temps. L'historien Palomino précise que le peintre utilisait des pinceaux à longs manches pour obtenir ce résultat. Pourtant, ceux qu'il tient dans les Ménines sont de taille normale. Ce tableau est-il donc vraiment une représentation de la réalité ? Vous pourrez croire que ce ne sont que des simples détails qui n'ont pas été réfléchis par le peintre, mais comme vous vous en doutez, tout a de l'importance pour un naturaliste, même des pinceaux. En réalité, nous n'aurons jamais la véritable réponse de ce que l'artiste peint sur sa toile cachée. Velázquez a réussi à créer un véritable mystère. Les Ménines, alors conservées dans les palais du roi d'Espagne, comme la majorité de ses tableaux de Velázquez, restent peu connues du grand public jusqu'en 1816. Cette date correspond à l'ouverture à Madrid du Musée National du Prado. L'œuvre y est déplacée et acquiert très vite une renommée exceptionnelle. Parmi ses plus grands admirateurs, on retrouve un autre Espagnol célèbre, Pablo Picasso. Il succombe au charme des Ménines et s'en inspira d'ailleurs pour créer en 1957 une série de 58 toiles. Les jeunes filles ont été retravaillées par la décomposition cubiste et changent donc d'expression. Je vous invite également à aller jeter un coup d'œil à ces peintures, qui témoigne de l'influence du talent et de l'originalité de Velázquez, qui a réussi à traverser les époques. Quant à l'œuvre du jour, vous pouvez la retrouver au musée du Prado à Madrid.